Mesdames, messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants. Il est prévu une escale de 35 minutes.
Amis auditeurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver à l'écoute, prêt pour notre petite escapade hebdomadaire hors des sentiers battus, chemin de traverse. Los que van y vienen, ceux qui y vont et qui viennent. Il y a quelques années, Emilio Sola Castaño, professeur à l'Université d'Alcalá de Henares et, pour ne rien vous cacher, grand ami de ce programme, avait publié une étude sur les déplacements en Méditerranée du XVIe siècle. Des exilés, des marchands, des prêtres, des prisonniers, des renégats, des esclaves, des soldats, des bannis, des espions aussi. Los que van y vienen, información y fronteras en el Mediterráneo clásico del siglo XVI. Des mouvements, des traces, des hommes, des espoirs, des rêves, des déchirements peut-être aussi. Le thème des exils, des migrations, des déplacements nous rattrape à tout moment, tant le mouvement est inhérent à l'homme. Cette année, le millénaire de Grenade nous interpelle avec ces bouleversements démographiques, ethniques, géographiques nous obligent à voir autrement la question des mouvements de population, depuis le transfert des habitants du bourg d'Elvira à ce qui allait devenir la Larnaca légendaire, un transfert volontaire apparemment puisque le chef Zenet Zawi El-Ziri, que les habitants d'Elvira avaient appelé à l'aide, avait conclu que la bourgade était située en un lieu indéfendable et qu'il fallait s'établir ailleurs. Le départ, la fuite éperdue des Grenadins vaincus, défaits en 1492, exil et douleur, ou encore le départ ou l'effacement après 1571 et la défaite des rébellions de Las Alpujarras. Mouvement trace également dans l'histoire récente des migrations la chute pour la première fois depuis que des statistiques systématiques de la population en Espagne sont établies en 1998. Une chute brutale de la population est clairement établie. L'Espagne a perdu 205 788 personnes au cours de l'année 2012, des émigrés espagnols qui cherchent un ailleurs plus clément, des immigrés qui étaient venus chercher un lieu plus favorable pour vivre et aider à vivre ce qu'ils avaient laissé ailleurs, mais qui, devant la détérioration de la situation économique, serrent de nouveau leurs affaires dans un baluchon et prennent le chemin du retour ou celui d'un autre ailleurs, chronique d'un monde en permanent mouvement. Aujourd'hui et pour 6 semaines, Chemin de Traverse accueille des chercheurs et artistes de la Casa Velázquez de Madrid, une des 5 écoles françaises à l'étranger, l'école française d'Athènes, celle de Rome, l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, l'école française d'Extrême-Orient. La particularité donc de cette Casa Velázquez est d'être à la fois centre de création artistique et centre de recherche et de regrouper ainsi des artistes et des scientifiques de diverses disciplines. Cette année, nous avons eu l'immense chance de converger dans nos préoccupations autour des migrations, aussi avons-nous décidé ici à la radio extérieure d'Espagne de saisir au vol la possibilité qui nous était offerte par la direction de la Casa Velázquez, son directeur Jean-Pierre Etiambre, son directeur des études pour les époques anciennes et médiévales Daniel Baloup et son directeur des études pour les époques modernes et contemporaines Stéphane Michonneau, de collaborer pour cette série de programmes Mouvements et Traces. Les cinq chercheurs et artistes ont tous la particularité de travailler sur les mouvements de population à partir de disciplines différentes, partant d'époques différentes et de corpus d'études différents. Ana Perudin est sociologue, membre scientifique de la Casa Velázquez, après avoir travaillé sur les migrants ou les migrations d'Indiens mexicains originaires du monde rural vers Mexico, puis vers les États-Unis. Elle oriente à présent sa recherche sur les migrations d'Indiens équatoriens et boliviens en Espagne. Question clé, être Indien fait-il encore sens en Espagne? Romy Sanchez est historienne, membre scientifique de la Casa Velázquez. Elle réalise une recherche sur l'exil politique cubain au XIXe siècle et elle s'intéresse aussi à l'actualité cubaine, à la Cuba actuelle et à ses exilés. Clara Biermann est ethnologue de la musique et de la danse, c'est ainsi qu'elle se présente et qu'elle ressent son travail. Elle est membre scientifique de la Casa Velázquez et, comme c'est souvent le cas, son thème de recherche est d'abord né d'une passion, celle qu'elle porte au candombe uruguayen dans ce cas, et c'est au travers de cette musique qu'elle tente de comprendre l'émigration uruguayenne en Espagne. L'artiste du groupe est la réalisatrice Vanessa Rousselot, membre cinéaste de la Casa Velázquez, où elle s'attelle à un travail documentaire sur les migrants latino-américains employés comme domestiques et vivant chez leurs employés. Vanessa a par ailleurs travaillé sur les caricatures arabes, les femmes libyennes après la révolte contre Kadhafi, l'humour palestinien. Elle a reçu de nombreux prix pour ses documentaires. Sébastien Gasque est médiéviste, historien et archéologue. Il est membre scientifique de la Casa Velázquez et ses recherches portent sur les monnaies frappées par les gouverneurs et les premiers émirs d'Al-Andalus entre 711 et 852. C'est lui d'ailleurs qui ouvre le bal, si j'ose dire, en nous parlant des premières migrations arabes et berbères dans la péninsule ibérique tout au long du Moyen-Âge à partir de sources écrites et de monnaie. Nous l'écoutons.
Mouvement et traces.
Écoutez,
comprendre,
imaginer,
raconter les migrations.
Une émission proposée par Radio Exterior d'Espagne et la Casa de Velázquez.
Le morceau que nous écoutons nous transporte dans le temps et dans l'espace. Cavalcade, chevauchée, conquête peut-être, pause, bivouac, que sais-je encore. La musique est un bon dateur, même lorsque nous ne disposons pas d'enregistrement d'époque. Ici, le groupe El Roussafa recrée non seulement une atmosphère, mais inscrit son travail dans l'héritage andalou. Les musiciens sont des privilégiés, décidément, n'est-ce pas, Sébastien ?
Pour ceux qui cherchent à reprendre une musique médiévale, même s'ils ont des contraintes en essayant, j'imagine, d'utiliser des instruments dont on sait qu'ils étaient utilisés, ils ont aussi une liberté, effectivement, qui est assez enviable.
Une liberté que Sébastien Gasque n'a pas. Sébastien Gasque, toi qui es historien spécialiste d'Al-Andalus et de la conquête berbéro-arabe de la péninsule, tu n'as bien sûr pas cette facilité que donne le pouvoir d'évocation de la musique. Alors, sur quoi se fonde-t-on pour aborder cette période lointaine? Les sources écrites, les chroniques, les récits hagiographiques?
Alors, tout d'abord, oui, les sources textuelles qui sont assez importantes, mais il faut noter que celles qui sont relatives à la conquête de l'Espagne par les troupes musulmanes peuvent montrer plusieurs limites. Dans un sens, elles sont généralement bien postérieures au fait. De ce fait, la seule chronique qui est relativement proche des événements est une chronique latine et non pas arabe, une chronique dite mozarabe. Le terme de mozarabe désigne les chrétiens qui sont restés sous la domination musulmane en Al-Andalus. Cette chronique latine est datée de 754, donc relativement proche de la conquête de 711, mais en dehors de celle-ci, les autres chroniques, et là je pense aux chroniques arabes, sont en général bien postérieures. En plus de ce décalage chronologique, il faut bien avouer que les chroniques sont souvent empreintes d'une atmosphère légendaire que de nombreux passages pourraient illustrer.
وكان على طنجة رومي يسمى وليان أميرا من قبل ملك الأندلس واسمه لدريق وهو قاطن بدار مملكته طليطلة وكان في هذه المدينة بيت عليه إقفال على عدد ملوكهم الذين تقدموا من لدن بناء البيت.
Quand Roderick eut le pouvoir, il dit: je dois ouvrir cette maison pour savoir ce qu'il y a dedans. Ce à quoi les évêques lui répondirent: ne fais pas cela, ne provoque pas ce que n'ont pas provoqué les rois antérieurs. Je dois l'ouvrir et voir ce qu'elle contient, insista-t-il. Calcule la quantité de pierres précieuses, de perles, d'or et d'argent que tu penses qu'il y a, et nous te le donnerons, répondirent les évêques. Nous devons l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur, fut sa réponse. Il l'ouvrit et n'y trouva qu'un grand parchemin sur lequel il put voir une illustration d'homme avec des turbans, montant de beaux chevaux et brandissant des épées et des étendards sur des lances. Sur ceci était écrit dans sa langue: cette illustration représente les Arabes. Quand les verrous de cette maison seront ouverts et que l'on rentrera dans celle-ci, les Arabes conquerront cette péninsule et se rendront maîtres de sa plus grande partie. Alors, Roderick se repentit de l'avoir ouverte et la referma. Mais irrémédiablement devait se produire ce que Dieu, bénédiction et le salut soient sur lui, connaît d'avance.
C'est une chronique arabe dont l'auteur est anonyme, mais qui est vraisemblablement nord-africain. Et c'est une chronique qui est datée du début du XIIe siècle, dans la mesure où le dernier événement qu'elle relate est daté de 1102. Donc la première écriture de cette chronique serait au début du XIIe siècle.
Et donc cette chronique que tu recueilles nous raconte quoi exactement?
Alors pour le passage que l'on a entendu, c'est un exemple encore une fois de cet aspect légendaire que j'évoquais tout à l'heure, puisqu'il y est dit que le dernier roi wisigoth, Roderick, aurait voulu ouvrir une pièce qui était condamnée et qui était fermée par un certain nombre de verrous, puisque chaque souverain, après avoir accédé au pouvoir, ajoutait son propre verrou. Et plutôt que de se soumettre à cette coutume, Roderick, lui, aurait préféré l'ouvrir contre l'avis des évêques, qui auraient vivement protesté selon la chronique. Et lorsque Roderick a finalement pu ouvrir la pièce, il a retrouvé une illustration avec des chevaux, des soldats avec des turbans brandissant des épées, et comme légende, un texte qui indiquait que ces soldats représentaient des Arabes qui allaient conquérir la péninsule à partir du moment où cette salle était ouverte.
Bien, alors ces textes, ces chroniques sont donc peu nombreuses. Elles ne datent pas de l'époque elle-même, de l'époque qui nous intéresse. Alors, est-ce qu'on n'a pas un autre moyen d'en savoir un petit peu plus sur ces gens?
Oui. En dehors de ces textes, qui ont plus de limites que j'ai données tout à l'heure, ont déjà été plutôt bien étudié, puisque justement, comme tu le disais, ils sont peu nombreux, donc la plupart a déjà été traduite et étudiée, et pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau sur cette période, il faut effectivement se pencher sur d'autres sources, et en conséquence les sources matérielles, les données archéologiques, et dans mon cas, les monnaies, puisque je travaille sur les premières monnaies frappées par les Arabes en Al-Andalus.
Les monnaies parlent donc tant ?
Oui, c'est une source qui est extrêmement riche et intéressante, et elle peut nous apporter beaucoup d'éléments, surtout pour cette première période, la période de la conquête, et le début de la présence musulmane en Espagne, qui est très peu éclairée par les sources.
Par exemple, qu'est-ce qu'on peut apprendre à travers une pièce de monnaie?
Alors, en tout cas pour les monnaies arabes, différentes pièces de monnaie ont été frappées en Al-Andalus, qui n'indiquent en réalité que assez peu d'éléments, mais bien souvent on a le nom de l'atelier. Et par exemple sur ces monnaies apparaît le nom d'Al-Andalus, et on a donc des monnaies qui représentent la première source directe où est mentionné le nom de cette nouvelle province, Al-Andalus.
Des monnaies ont coexisté, des monnaies différentes de rois différents.
Alors oui, il est probable que continuent à circuler des monnaies plus anciennes, même au moment où on est passé sous la domination musulmane en Espagne. Il est probable que des monnaies plus anciennes aient continué à circuler. C'était déjà le cas vraisemblablement à la période visigothique, puisqu'il est probable que des monnaies romaines aient continué elles aussi à être utilisées. Et c'est vraisemblablement ce qui se passe au moins au début de la période musulmane, puisqu'il n'est pas rare de trouver dans une stratigraphie qui pourrait correspondre des monnaies arabes et des monnaies plus anciennes.
Et donc on pourrait supposer que des monnaies autres soient arrivées dans la péninsule, des monnaies des royaumes d'Afrique du Nord ou des monnaies d'Orient.
Bien sûr, c'est effectivement le cas, en tout cas pour la période, donc sur le début de la présence musulmane, il y a effectivement des dirhams, des monnaies d'argent qui arrivent en Espagne depuis l'Orient. Beaucoup de monnaies frappées à Ouassit, frappées à Damas. Des monnaies qui apportent du coup des éléments sur les mouvements et sur l'arrivée. Vraisemblablement, ces monnaies-là sont à mettre en relation avec l'arrivée des contingents arabes au fur et à mesure de la période des gouverneurs entre 711 et 756.
Donc les monnaies elles-mêmes migrent.
Donc les monnaies elles-mêmes migrent.
Bien, alors moi je suis très curieuse et j'aime bien les histoires qu'on me raconte, les histoires de rois, de reines, de princesses, de conquérants, etc. Et je suppose que la fin du royaume visigothique n'a pas été une fin très glorieuse et que le royaume n'aurait pas été conquis s'il n'y avait pas eu aussi des problèmes intérieurs. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est que sait-on de la conquête et de la fin du royaume visigothique?
Alors pour la fin du royaume visigothique, effectivement, comme tu le soulignais, la conquête aurait sans doute été plus difficile si les Arabes et les Berbères avaient eu affaire à un pouvoir fort chez les Visigoths. Et d'ailleurs en Orient, il faut bien souligner que les adversaires de l'expansion arabe, byzantins comme perses, venaient de s'affaiblir l'un l'autre après une longue guerre qui les avait opposés. Lorsque, pour le cas de l'Espagne, on a effectivement encore une fois un cas de faiblesse, puisque les dernières années du royaume visigothique de Tolède sont souvent présentées comme une période de crise, une crise à plusieurs niveaux, une crise qui pourrait être dite sociale, avec un problème par rapport au système de servage qui est en place sous la période visigothique. De nombreuses lois sont promulguées dans les édits de Tolède contre les esclaves en fuite, contre les communautés juives également, qui sont forcées à des conversions. Une crise qui pourrait être également économique, bien qu'à mon sens, il faille un petit peu la nuancer. Mais surtout une crise politique. Plusieurs révoltes sont attestées à la fin du 7e siècle. L'une des plus importantes est sans doute celle du duc Paul en 672, qui contraint le roi Vamba à une expédition en Narbonnaise. Outre cet épisode, les crises que traverse la monarchie visigothique s'expliquent par le principe même de la monarchie, à savoir que les rois visigoths sont choisis par les grands du royaume. Ce n'est pas une monarchie héréditaire. Alors malgré cela, plusieurs souverains vont chercher à associer leurs fils au pouvoir de leur vivant pour que ceux-ci puissent ensuite hériter du pouvoir à la mort du père. Et c'est notamment ce que fait Égica en 695, puisqu'il associe son fils Witiza au pouvoir. Et Witiza règne ensuite seul entre 702 et 710, la date de sa mort. À sa mort justement donc en 710, une partie de l'aristocratie choisit Rodéric, vraisemblablement duc de Bétique, comme souverain. Les fils de Witiza, eux, se seraient sentis lésés et auraient joué un rôle majeur dans la bataille de 711 opposant Roderic aux troupes arabo-berbères, en le laissant finalement seul face aux troupes de Tariq et en décidant ainsi du sort de la bataille favorable aux conquérants.
En le laissant seul ou alors finalement en favorisant la conquête arabe ? Peut-être que le sentiment national n'était pas aussi fort qu'on pourrait le penser.
Ah oui, c'est certain. C'est certain. Et puis, il faut voir aussi comment étaient perçus les Arabes. Peut-être ont-ils perçu, dans l'arrivée de ces contingents, la possibilité de mettre fin au royaume de Roderic et de pouvoir récupérer, eux, à la suite, le pouvoir.
C'est particulièrement, je crois, important chez la communauté juive. La communauté juive qui semble à un moment donné peut-être se réjouir de ce changement de gouvernant.
Oui, en tout cas, elle a de quoi s'en réjouir puisque, comme je le disais, effectivement, les lois promulguées lors des conciles de Tolède, à partir des années 680 particulièrement, s'annoncent très, très sévères envers les juifs. Quand l'on compare cela à la tolérance des musulmans par rapport aux autres religions du livre, donc par rapport aux chrétiens et par rapport aux juifs, il est certain que les communautés juives ont à gagner lors de l'arrivée des troupes musulmanes.
Alors on revient à ton corpus de recherche, c'est-à-dire les monnaies. Qu'est-ce qu'on peut savoir à partir des monnaies de cette période, concrètement, de ce grand bouleversement ?
Alors, évidemment, pour cette période de fin du royaume wisigothique, les monnaies me permettent d'aborder le thème de la crise économique. Mais plus particulièrement, et j'aimerais insister sur ce point, par rapport à la crise politique, elle me permet de voir en quoi est-ce que Aquila, qui est un souverain dont on a une mention isolée dans une source, un souverain qui aurait régné jusqu'en 713 et son fils Ardo lui aurait ensuite succédé à la tête des régions les plus septentrionales de la péninsule. De cet Aquila, en dehors de cette mention isolée, on n'a pas d'informations. En dehors, donc, des monnaies. Les monnaies mentionnant le nom d'Aquila, donc frappées au nom d'Aquila, mentionnent également le nom de l'atelier où elles ont été frappées. Et on se rend compte qu'elles ont été frappées à Saragosse, à Tarragone, à Barcelone, Gérone, et bien sûr à Narbonne, qui est la dernière ville conquise de celle que je viens de citer, par les musulmans en 719. Alors, cela donne évidemment une idée de l'aire géographique sur laquelle domine Aquila. Mais en plus de cela, cela permet de donner quelques précisions, puisque Aquila a souvent été présenté comme l'un des fils de Witiza, dont je parlais tout à l'heure, ou comme un roi qui ne récupère qu'une partie des territoires qui n'ont pas encore été conquis par les musulmans après la défaite de Roderic. Or, si on se penche plus précisément sur les cartes de découverte de monnaie d'Aquila et de Roderic, sur une carte représentant les ateliers qui frappent monnaie au nom d'Aquila ou de Roderic, on se rend bien compte que la péninsule ou l'ancien royaume de Tolède est divisée entre Roderic et Aquila. Donc il est plus probable de considérer Aquila comme un souverain qui s'affirme ou qui cherche à s'affirmer dès que Roderic est en place et donc avant même la conquête arabe. Ce qui implique donc vraiment cette crise politique que j'expliquais tout à l'heure.
Bien, alors on revient aux conquérants. Et justement, ces conquérants qui y arrivent, est-ce qu'ils sont, ça intrigue beaucoup, est-ce qu'ils sont berbères, arabes, arabo-berbères ? Qui commande ? Qui est le chef ?
Alors oui, j'utilisais le terme de arabo-berbère pour l'armée, puisque effectivement, les berbères jouent un rôle primordial dans la conquête de l'Hispania wisigothique. Il faut dire que le gouverneur qui va lancer la conquête, Moussa ben Nusayr, est le gouverneur arabe de Kairouan. Et il va faire envoyer, à partir déjà de 710, dans une expédition de reconnaissance, un officier berbère du nom de Tarif ben Malouk, qui va pour la première fois prendre pied donc dans la péninsule ibérique. Un raid dont la réussite va convaincre Moussa d'envoyer un autre berbère, Tariq ben Ziyad, qui lui va prendre une part très importante dans la conquête, puisque Tariq part en Hispania en 711 à la tête d'une armée de 7000 à 12000 hommes, et en grande majorité, dans ce cas-là, des berbères.
Et cette déliquescence du règne wisigoth est racontée également, bien sûr, à travers les chroniques arabes.
وكان صاحب طنجة وسبتة من خصة الملك لدريق
فأنفذ ابنته إلى طليطلة فكانت في قصر الإدريق وكان يزوره مرة في العام.
جوليان سينيور دو تانجي دو سيوتا كي تي parmi les proches du roi Roderic avait envoyé sa fille à Tolède au palais de Roderic, à qui il rendait visite une fois par an au mois d'août, lui apportant des cadeaux, objets précieux, exquisités et oiseaux de fauconnerie. Sa fille était parmi les plus belles femmes. Et Roderic, un jour qu'il avait bu et était saoul, posa ses yeux sur elle, puis la viola, la déshonorant ainsi. Quand il revint à lui et qu'il fut informé de ce qu'il avait fait, il se repentit de son geste et ordonna qu'on le garde le secret sur ce fait et interdit à la fille de Julien de se retrouver seule avec quiconque pouvant raconter ou écrire l'événement à son père. Quand la jeune fille comprit qu'elle ne pouvait se retrouver seule avec quelqu'un ni écrire une lettre à son père, elle lui envoya un cadeau dans lequel elle ajouta aux objets précieux et rares un œuf pourri.
فجاء إليه في خلاف الوقت المعهود.
Après avoir récupéré sa fille, il partit vers l'Ifriqiya à la recherche de l'émir Moussa ben Nusayr, qu'il rencontra à Kairouan. Il lui raconta l'histoire de sa fille et l'incita à passer rapidement en Al-Andalus en lui expliquant les richesses et bénéfices qu'il pourrait y faire en décrivant un pays où abondaient l'eau, les jardins, les fleuves, les cultures irriguées riches de fruits. Moussa ben Nusayr, qui était prudent, juste, sage et qui avait de l'expérience dans toutes les affaires, lui dit « Nous ne doutons pas de tes paroles, mais nous craignons pour les musulmans car c'est un pays que nous ne connaissons pas et dont la mer nous sépare, tandis que toi et ton roi êtes unis par une même foi. Retourne dans tes terres, rassemble tes armées, lance des attaques contre son pays et romps les liens qui vous unissent. » Alors nous te ferons confiance et nous t'appuierons si Dieu le veut.
Comment se retrouve-t-on ensuite avec un pouvoir arabe arrivé d'Orient, les Omayyades?
Oui, alors là, ça nous fait faire un bond dans le temps, mais effectivement, s'ensuit de cette période de conquête une période dite des gouverneurs, ou plusieurs gouverneurs, qu'ils soient rattachés tout d'abord à l'Afrique du Nord, à l'Égypte dans un premier temps, puis à l'Afrique du Nord, sont des gouverneurs de cette province. En 756, va prendre le pouvoir Abdelrahman, qui est le survivant omeyyade, de cette dynastie qui a été renversée en 750 par les Abbasides. Les Abbasides ont organisé un massacre de la dynastie régnante. Et Abdelrahman, qui y a survécu, s'est réfugié dans un premier temps en Afrique du Nord et passe ensuite en Al-Andalus. Alors le contexte lui est favorable dans la mesure où Al-Andalus connaît certaines crises et des combats entre berbères et arabes, justement, un conflit ancestral entre arabes du Nord et arabes du Sud. Et profitant de ce contexte, il prend le pouvoir en 756 et se fait nommer émir d'Al-Andalus. C'est le début de
la partir de là, Sébastien, je suppose que les documents écrits deviennent de plus en plus importants.
Oui, alors là, on passe effectivement dans une autre phase. L'absence ou les lacunes que j'évoquais tout à l'heure dans les textes étaient surtout relatives à la conquête et à cette période-là dite des gouverneurs, donc jusqu'à 756. Ensuite, les textes sont un petit peu plus importants et permettent de mettre bien en avant cette période qui est plus faste pour Al-Andalus. La dynastie omeyyade en Al-Andalus implique le début d'une période très différente de la précédente. Entre 711 et 756, une vingtaine de gouverneurs se sont succédés à la tête de la province, ce qui montre une instabilité politique assez conséquente. À partir de 756, au contraire, on va avoir un pouvoir bien plus stable et on rentre dans une nouvelle période pour l'histoire d'Al-Andalus qui va déboucher jusqu'au califat en 929, puisque la dynastie omeyyade va prendre le titre califal. Abdelrahman III prendra le titre califal en 929.
La période omeyyade est une période faste au début. Ensuite, tu nous expliques qu'elle connaît des difficultés. Et là, on passe à des royaumes multiples, souvent en guerre les uns contre les autres, les royaumes de Taïfa. Bon, les royaumes chrétiens du Nord sont tout aussi divisés. Et alors, là, est-ce que ton travail se fonde sur les sources écrites et tu laisses de côté les monnaies, ou alors les monnaies continuent d'être un élément fondamental pour la compréhension de cette période très troublée?
Alors, à titre personnel, je ne travaille pas directement sur cette période et sur la fin du califat omeyyade avec le morcellement d'Al-Andalus, effectivement, en une quantité de petits royaumes appelés taïfas. Cela dit, en plus des sources écrites, les monnaies apportent toujours d'importants éléments et il est vrai que des travaux ont été consacrés aux monnaies des périodes taïfales et qu'elles ont une importance particulière. Cela permet également de voir qui frappe monnaie et quel type de monnaie est frappé par quel taïfa.
On pouvait utiliser des monnaies différentes d'un royaume à un autre? Je veux dire, une monnaie d'un royaume, je ne sais pas, de Grenade, pouvait servir de monnaie d'échange à Valence?
Alors, il faut se pencher un petit peu plus en avant sur les découvertes pour voir la circulation éventuelle des monnaies d'un royaume à l'autre. Mais en théorie, la monnaie qui circule, à partir du moment où elle comporte de l'argent ou de l'or, dans de très rares cas, possède une valeur intrinsèque. Et certaines vont avoir plus de prestige ou sont reconnues comme des monnaies de très bon aloi et donc avec un titre important et une valeur en métal précieux important.
Disons que la garantie qu'il y a derrière est reconnue par les autres.
Voilà.
Mouvement et traces. Sébastien Gasque avec à la technique Ana Porras et Jesús Carreras. auditeurs, c'était là notre premier épisode de la série Mouvement et Traces, une série co-élaborée entre la Casa Velázquez et Radio Exterior d'Espagne. Chemin de traverse arrive à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Ce programme vous a été proposé par Imen Wenzar avec Jesús Carreras à la réalisation. À très bientôt.
Εφτά πουράνε εικόνε αίμα μη μάντζε μοτοδά αν δε καντζίρι σουμνάλε σαβόσι βολέμ πετσαβορά Εφτά πουράνε εικόνε Vale mande ducanas Que show sumnala Pavona se jaka Eftatorovelas
Manj, show Efta shel brša Efta shel atajek brša Efta shella mardi mata Voi rode rudi mata Manj, shol Efta shell bersha Efta shella mardi mata Voi pe mande rovela Avela la laia sva